Bonjour à tous. Alors, c'est une joie pour moi ce matin de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, de savoir que dans ce livre, c'est Dieu qui nous parle et qui veut encore ce matin rendre cette parole vivante dans nos cœurs pour nous encourager, pour nous instruire, pour nous enseigner, des fois pour nous corriger, pour redresser. Mais toute chose concourt à notre bien à travers cette parole. Alors, nous allons ouvrir ce matin cette parole sur un texte des évangiles que seul Jean nous rapporte. L'évangile de Jean. C'est au début de l'évangile, c'est un texte qui a souvent été partagé. C'est la rencontre de Jésus avec une femme à un puits, la Samaritaine. Alors, on voit qu'au début de cet évangile, au chapitre 3, Jésus a rencontré un homme qui est venu vers lui la nuit, en cachette, un docteur de la loi, et ils ont parlé de comment un homme peut entrer dans le royaume de Dieu. Il nous a parlé de nouvelle naissance. Et au chapitre 4, c'est une autre rencontre, quelqu'un qui va également venir à Jésus. Et là, la question semblerait plus de qui peut entrer dans ce royaume. Alors, nous allons lire 30 versets, au chapitre 4 de l'évangile de Jean. Je vais lire sur la version seconde. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Joseph avait donné, près du champ que Jacob, pardon, avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire ?» À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu saint mari et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites qu'est le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alors après les trois premiers versets de cette lecture qui nous font revenir à la situation historique du départ, le pourquoi de Jésus qui part de la Judée vers la Galilée, Et on voit qu'il part pour ne pas créer des polémiques sur le fait que les pharisiens pensaient que c'est lui qui baptisait plus, etc., que ses disciples, et ne voulant pas créer de polémiques parce que Jésus ne baptisait pas, il choisit donc de quitter la Judée et de s'en rendre en Galilée. Et il y a un verset qui est étonnant, qui sonne un peu comme en relief, le verset 4, qui nous dit « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. » C'est étonnant. Le voyage était tout simple. On part de Judée au sud. Et puis si on se met une carte devant les yeux de la bande que représentait la Palestine, il y avait la Judée, il y avait la Galilée. À gauche, il y avait la mer. À droite, il y avait le désert. Mais voilà, au milieu, il y avait une région. Cette région, elle s'appelait la Samarie. Et on le sait, les Juifs et les Samaritains ne s'aimaient pas. Ils ne se fréquentaient pas. Ils ne se parlaient pas. Et inévitablement, donc au bon milieu de cette carte géographique, se trouve la Samarie. Beaucoup de Juifs, pour ne pas dire tous, préféraient faire un long détour plutôt que de passer par la Samarie. Pourquoi ? Parce que les Juifs évitaient toutes les relations avec les Samaritains. Alors, qui étaient ces Samaritains pour replacer cette rencontre avec cette femme dans le contexte de l'époque ? Les Samaritains, c'était des personnes qui descendaient des survivants du royaume du Nord. Quand le royaume du Nord a été envahi et a chuté, le roi Sargon d'Assyrie a été rusé. Il n'a pas emporté tout le peuple en déportation. Il en a laissé certains. Et puis, il a amené des peuplades de Babylonie dans le royaume du Nord afin de dénationaliser le pays, afin d'amener des coutumes étrangères, afin d'amener même des religions étrangères qui se sont vite unies, mariées avec le culte à l'Éternel. Et ces personnes importées mélangèrent leur fausse religion à celle de l'Éternel. Et lors du retour de captivité, 70 ans après, lorsque les Juifs sont revenus de Babylone, ils refusèrent très tôt de s'unir avec ces peuples, avec une nation, on peut dire, qui était née. Il y avait eu un croisement. Et on voit que tout de suite, sur le plan social et religieux, il y a eu un rejet. Et cette répugnance naissante dégénéra en antipathie intense. Pour les Juifs, les Samaritains n'étaient point de pure race juive et pratiquaient une religion mixte. Ils avaient gardé l'adoration du même Dieu, mais ils n'avaient conservé que les 5 premiers livres de la loi, le Pentateuch. Comme les Juifs, ils attendaient un Messie, mais c'est tout, ça n'allait pas plus loin. 700 ans au cours duquel la haine raciale et religieuse avait séparé les Juifs des Samaritains. Un Juif ne pouvait même pas prononcer le nom de Samaritain au risque de se souiller. Voilà donc ce que représentait dans la pensée juive cette région et ceux qui y habitaient. Et vous savez, en Juif qu'il était, Jésus aurait pu se détourner de cette région et passer outre. Mais Jésus est Dieu. Et alors qu'on se détournait de la Samarie, lui y est passé volontairement. Jésus est la bonne nouvelle de l'Évangile qu'il annonce est au-dessus des barrières douanières, est au-dessus des barrières raciales, est au-dessus des barrières sociales, culture, politique. Toutes ces barrières, même religieuses, que l'homme a construit et qu'il se plaît à entretenir. L'évangile de Dieu est au-dessus de tout cela. Aujourd'hui, Jésus passe encore et visite par son esprit des régions que nous aurions tendance à juger peu fréquentables. Jésus visite encore par son esprit des personnes et des régions que nous aurions tendance à mettre de côté. Parce qu'ils ne vivent pas comme nous, parce qu'ils ne pensent pas comme nous, parce qu'ils ne font pas des choses parfois agréables. Et je crois que l'actualité qui nous entoure est là pour nous le montrer. Aujourd'hui, Jésus passe encore et visite par son esprit et à sa manière des pays peu fréquentables pour nous. Et vous savez, pour nous parler, le Seigneur a traversé la distance qui sépare le ciel de la terre. Il a franchi la distance qui sépare le divin de l'humain. Lui qui est Dieu, il s'est fait homme. Il a pris un corps comme le nôtre. Plus aucune barrière ne peut l'empêcher de venir à nous. 700 ans de haine et d'indifférence. Et pendant toutes ces années, tous les enfants juifs et samaritains qui sont nés, eux n'avaient pas connaissance de cette haine. Ils naissaient certes pécheurs, mais on peut dire qu'ils naissaient blancs par rapport à cette situation. Mais l'éducation et l'enseignement qu'ils ont reçu de la part de leurs parents, de leurs proches, a maintenu cet état d'esprit, ces attitudes et ce regard sur l'autre. Pour le juif, passer en Samarie, c'était peut-être remettre en question l'éducation reçue, remettre en cause ce qu'on lui avait inculqué et peut-être voir un peu plus loin que le bout de son nez. Est-ce que le point de vue de mes proches et de mon entourage que je reçois lorsque je suis enfant est la vérité de ce monde qui m'entoure? Et c'est avec ces idées que je grandis et que mon regard sur ce qui m'entoure va se forger. Personnellement, combien d'idées ai-je reçues et ai-je dû remettre en question des années plus tard, mais qui marquent un temps durant l'esprit et notre manière de raisonner? Combien de préjugés l'être humain reçoit, mais donne également, qui fausse le regard et peut faire vivre dans la crainte et cloisonner l'esprit? En raccourci, est-ce que tout ce que j'ai reçu ou tout ce que je peux apporter aujourd'hui à ceux qui m'entourent colle avec la parole de Dieu? Vous savez, j'étais surpris une fois, j'avais un ami, un collègue, c'est très vieux, je n'avais pas encore rencontré le Seigneur, et ce collègue ne mangeait pas d'avocat qui venait d'Israël. Parce que dans sa famille, chez ses parents, on n'aimait pas les juifs. Il mangeait des avocats, mais avant de l'acheter, il regardait bien l'étiquette pour voir d'où ça venait. Et lorsque l'avocat venait d'Israël, il le reposait. Il n'en mangeait pas. Pourquoi? Parce que ses parents n'aimaient pas ce pays. Et lui, il ne l'a pas aimé. Les conséquences que peuvent avoir parfois certains préjugés, certaines éducations. Est-ce que tout ce que je donne ou ce que je peux apporter à aujourd'hui à ceux qui m'entourent colle avec la parole de Dieu? Jésus arrive dans la ville de Samarie, nommée Sichar. Alors dans l'Ancien Testament, elle s'appelait Sichem et aujourd'hui elle s'appelle Naplouse. Et là se trouvait le puits de Jacob où celui-ci rencontra pour la première fois Rachel. Alors on trouve cet épisode en Genèse chapitre 29. Le verset 6 nous dit que Jésus était fatigué du voyage, assis au bord du puits. Ce sont ses disciples qui vont à la ville pour acheter des vivres. Jésus a besoin de se reposer, de souffler. Et dans sa nature humaine, Jésus a fait l'expérience des limitations physiques que connaissent tous les hommes, que nous connaissons. Et je dirais, c'est rassurant de voir que la fatigue existe, que Jésus était fatigué. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et Jésus, durant sa vie, a manifesté d'une manière équilibrée et véritable tout ce que l'être humain peut vivre et doit vivre. Sa vie est une référence. La vie de Jésus est unique. Dans l'humilité, la douceur, l'humour, la joie, les pleurs, mais aussi la fatigue. Jésus était fatigué parce que la fatigue existe. Il se reposait et savoir se reposer également quand il le faut. Mais dans l'œuvre de Dieu, et on va le voir par la suite, se reposer n'est pas synonyme de ne rien faire. Combien de frères et sœurs ont un ministère sédentaire malgré une fatigue physique, malgré parfois une santé précaire, dans la prière, dans l'intercession, dans des contacts téléphoniques et bien d'autres choses? Combien de personnes ont parfois été exhortées lors d'une visite à quelqu'un donné comme plus fatigué qu'eux. L'œuvre de Dieu ne fonctionne pas comme une entreprise. Et ce ne sont pas les ministères les plus voyants, portés par les personnes les plus mobiles, qui sont forcément toujours les plus importantes. Être fatigué n'est donc pas une tare, n'est pas non plus cette attitude où l'on ne fait absolument plus rien, mais où Dieu veut et peut nous aider à être disponible et rester attentif aux besoins d'autrui. Alors, comme dans tous les pays qui puisent leur tradition dans le nomadisme, les puits ont toujours eu une grande importance. C'est le lieu où s'arrêtent les caravanes, c'est le lieu où l'on rassemble les troupeaux pour leur donner à boire, c'est le lieu où Jacob vit Rachel, c'est le lieu où Moïse remarqua Séphora, et c'est le lieu où Éliézer rencontra la belle Rebecca, qui devint la femme d'Isaac et la mère de Jacob. Le puits est un lieu de vie et de rencontre. Et Jésus est assis sur le bord du puits et il se repose, et c'est la sixième heure, midi. Le soleil est au zénith. Arrive une femme de Samarie qui vient chercher de l'eau nécessaire à ses occupations quotidiennes. Alors vous êtes tous posé cette question, et je la repose ce matin, pourquoi vient-elle seule au puits ? Et surtout à cette heure-là. Ce n'était pas la coutume d'y venir seule déjà. Et ce n'était pas l'heure pour venir au puits. C'était à la soirée, après la chaleur du jour, ou tôt le matin, avant la chaleur, que les femmes sortaient des villages pour renouveler leur provision d'eau. Ce n'est pas par plaisir que cette femme a choisi cette heure la plus brûlante pour venir chercher de l'eau au puits. Si elle agit ainsi, c'est qu'elle a envie de voir personne. Et là, elle est sûre de voir personne. Et on le verra. À part Jésus, ils ne vont être dérangés par personne. Si elle agit ainsi, c'est qu'elle a envie de voir personne. Sa vie la montre du doigt. Et elle est montrée du doigt, tenue à l'écart par ses concitoyens. Et venir à cette heure-là est pour elle le seul moyen d'éviter leur regard, leur moquerie. Mieux vaut affronter les rayons brûlants du soleil que les regards méprisants des villageois. Des villageoises. Midi, je dirais, c'est l'heure des marginaux, des laissés pour compte, qui existent encore dans notre monde aujourd'hui et qui vont chercher leur eau également à midi. Mais ce jour-là, cette femme, peut-être à sa surprise, ne sera pas seule. Un homme est là et c'est Jésus. Et alors, chose formidable, c'est lui qui prend l'initiative du dialogue. Verset 8. Et là, je dirais, c'est 700 ans qui tombent, un tabou qui tombe. Lui qui va parler à cette femme, elle lui dit, elle l'a reconnu que c'était un juif. Comment toi, qui es juif, tu oses parler à une femme, toi un homme juif, à une femme qui est samaritaine ? Tu te rends compte ? Les hommes-femmes se parlaient déjà rarement en lieu public, et alors un homme juif parlait à une femme samaritaine du sexe opposé. C'est une folie. C'est une folie. Comment toi ? Et pourtant, par le simple fait de lui adresser la parole, Jésus brise la solitude et l'enfermement de cette personne. Vous savez, il faut parfois peu de choses pour changer les circonstances. Regard des autres accueillis ou méprisés, qui se croisent ou qui se fuient. La main ou la joue que l'on tend ou que l'on ne tend pas. La parole que l'on adresse ou que l'on retient. Un sourire que l'on donne ou que l'on retient aussi. Jésus ne tient pas compte de sa réponse, mais profite de sa stupéfaction pour éveiller en elle le désir du don de Dieu. C'est ce qu'il lui répond. Et aussitôt, Jésus va parler à son cœur. Il lui montre non seulement qu'il s'intéresse à elle, mais qu'il peut répondre à ses besoins qu'il connaît. Et vous savez, en réalité, ce n'est pas lui le demandeur d'eau, c'est elle, et elle ne le sait même pas. Et aujourd'hui, dans ce monde, nous sommes entourés par des millions de personnes qui sont demandeurs et qui, quelque part, ne le savent même pas, mais ils sont demandeurs. Par leur manière de vivre, par leur appel au secours, ils sont demandeurs et ils ne le savent même pas. Bien sûr, la réponse de Jésus est empreinte d'incompréhension, alors qu'à l'origine de l'échange, cet homme fatigué demandait de l'eau, c'est lui-même maintenant qui propose d'en donner. C'est incompréhensible. Alors elle ne comprend pas le sens du don que lui offre Jésus, elle lui demande, mais d'où tient-il cette eau mystérieuse? Il n'a pas de seau, le puits est profond. Comment cet homme fatigué pourrait-il faire jaillir cette eau qu'elle a même, elle, du mal à puiser? Mais le ton de cette femme a changé. Elle l'appelle plus juif, déjà un peu au-dessus, Seigneur. Cet homme l'intrigue. Et avec de l'incrédulité, mais aussi de l'ironie, pour ne pas dire presque de la moquerie, elle lui demande s'il peut vraiment être plus grand que Jacob qui leur a donné ce puits, lui qui n'a même pas de quoi puiser. Cette femme se raccroche alors à son histoire, son identité historique, capable de la rassurer parce que cet homme la met mal à l'aise et à cette remise en question qui provoque dans son cœur. Jésus ne répond pas à la question de Jacob. Non, non, il n'a pas recours à l'histoire, au passé, à la tradition. Vous savez, le passé, l'histoire, la tradition, que ce soit pour n'importe qui, cela ne mène à rien. C'est historique, mais cela ne mène à rien. Il lui dit juste, celui qui boira de l'eau de ce puits de Jacob, ton père, ton ancêtre, oui, bah lui, il aura encore soif. Et au verset 14, il dit, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, elle deviendra dans son cœur une source d'eau qui ira jusque dans la vie éternelle. L'eau qu'il donne étanche la soif aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Ce que Jésus propose est du durable. Jésus n'avait pas besoin de puiser de l'eau puisqu'il est lui-même la source. L'eau, c'est lui. L'eau qui désaltère, l'eau de la vie, c'est lui. Il n'a pas besoin de la puiser. Alors au verset 15, elle lui demande de cette eau pour ne plus avoir soif et ne plus avoir à venir puiser l'eau du puits. Mais elle fait comme un peu tout le monde, elle voit dans la proposition de Jésus un avantage, celui de ne plus avoir à affronter l'opinion publique et de continuer sa vie et d'être ainsi tranquille. Tranquille, je serai débarrassé à plus venir ici. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour sa vie. Et il change carrément de discussion. Il l'interrompt, il lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Jésus ne veut pas, dans la vie de cette femme, comme dans nos vies, être un paravent. Une religion derrière laquelle elle pourrait vivre comme elle a toujours vécu. Et ce qu'on pourrait faire. Prendre ce qui est agréable et laisser ce qui est dur. Je me souviens toujours que ma mère, quand elle me préparait les tartines quand j'étais enfant, alors il y avait du pain, puis il y avait de la confiture. Je faisais comme beaucoup de personnes, je léchais la confiture et puis je laissais le pain. C'est un peu cette femme, elle voit comme Jésus comme un paravent, mais ce n'est pas ce que Jésus veut pour sa vie. Et Jésus veut que toute sa vie soit placée devant Dieu. Et il en est de même pour nous. Jésus met le doigt sur sa plaie, là où ça fait mal. Jésus met des fois le doigt sur ma plaie, là où ça me fait mal. Mais s'il le fait, c'est pour mieux la guérir. S'il le fait, c'est pour mieux me guérir. Jésus connaît sa vie. Il ne la juge pas. Il aurait pu. Il ne lui dit pas si c'est bien ou si c'est mal. Il ne lui fait pas tout un exégèse de sa vie qu'il connaît. Cela se passe dans le secret d'un dialogue. Jésus n'étend pas sa vie. Il ne l'étend pas. Jésus lui apporte la vie. La vie de cette femme ne lui fait pas peur. Et personne n'est allé trop loin. Personne n'a fait trop de bêtises pour que l'amour de Dieu ne puisse pas l'atteindre. Personne. Et le Seigneur veut lui révéler la vraie nature de son besoin. Son besoin, ce n'était pas de ne plus venir chercher de l'eau au puits. Non, c'était la soif de sentir au fond de son âme le pardon de Dieu et la force de rompre avec une vie de péché, de désordre. Ce Jésus n'est pas un interlocuteur facile ou confortable, il ne nous ménage pas, mais il voit avant tout le cœur et le bien-être pour chacun. Il voit notre manière aussi de remplacer Dieu parfois, de le détrôner, et sur le plan pratique, de chercher notre bien-être, notre sécurité, notre joie ailleurs qu'en lui. ailleurs qu'en lui et ses promesses, quitte à en souffrir. Dieu le voit. Tous ces dieux qui ne peuvent satisfaire notre cœur et dont l'eau ne jaillit pas jusque dans la vie éternelle. Un homme disait, comment peut-on prouver la grandeur de la mer à quelqu'un lorsqu'il n'a vu qu'une flaque d'eau? Voilà, parfois nous sommes dans cette flaque d'eau. Oui. Et ça monte au verset 19, elle voit la perspicacité de Jésus et le reconnaît comme un prophète. On est parti de juif, seigneur, prophète. Mais au verset 20, soudainement, on voit que cet entretien est vraiment particulier. Ils sont pas... C'est particulier. Le cours de la conversation change au verset 20 et la femme détourne son problème moral vers un problème religieux fondamental. Vous savez, c'est plus commode d'abandonner une affaire de conscience pour se complaire dans une controverse religieuse qui mène nulle part et dont on s'en sort tranquille. Et vous êtes peut-être arrivé aussi dans des discussions de subir la même chose. Oui. De regarder ailleurs quand le sujet devient brûlant, gênant. Et comme beaucoup de personnes, c'est ce qu'elle fait. Comme on dit, elle essaye de noyer le poisson dans l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus, c'est un encouragement pour nous, n'est pas perturbé par ce changement de sujet. Absolument pas. Il parle paisiblement et il ne tourne pas en rond et fait admirer son extraordinaire franchise. Pour nous aussi, ça peut être le cas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà ce qu'il dit à la femme. Ah, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Autrement dit, votre religion est fausse. Nous adorons ce que nous connaissons. Jésus ne lui a pas dit « tous les chemins mènent à Rome ». Non, il lui a dit qu'il existe une vérité. Et que la vérité, cette vérité, par pure grâce, sort du peuple juif et pas d'un autre. Et au risque de lui déplaire, il rajoute « le salut vient des juifs ». Le salut, c'est quelque chose de complètement différent. Vous savez, on est entouré de religions. On est entouré de religions. Mais il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a qu'une personne qui nous ait aimés, qui nous connaît personnellement depuis les temps anciens, depuis les jours de l'éternité, et qui sont venus pour nous sauver, pour mourir pour nous. Qu'une seule. On est entouré de religions. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et il lui dit clairement que dans ce débat, les Juifs ont bien raison. Mais en même temps, il va conduire cette personne à l'adoration et lui dire que ce ne sera plus sur cette montagne qu'il faudra adorer, que les temps vont changer, qu'on adorera le Père en esprit et en vérité. Pourquoi ? Parce qu'il est là et qu'il est venu et que tout ce qui existait avant n'était qu'une ombre des choses à venir et que lui les accomplit toutes et tous par sa vie qu'il va porter sur la croix où il pourra dire « oui, tout est accompli ». Souvent, nous disons ces trois mots, mais combien nous les limitons dans notre esprit? Tout est accompli. Jésus a tout accompli. C'est fini. Il n'y aura plus besoin de questions de temple, d'endroits sacrés, de montagnes, d'églises ou de chapelles. Il n'y aura plus de sacrifice à faire. Jésus est notre sacrifice et la personne où je peux rencontrer Dieu. Alors, tout ce que lui dit Jésus la place dans une position évasive de doute, elle n'est pas 100% convaincue parce que le verset 25 l'atteste, elle dit, elle s'en remet au Messie. Quand il sera venu, lui nous enseignera toutes choses parce que c'est lui qui sera l'autorité ultime. Et au verset 26, littéralement, Jésus lui dit, moi, je suis qui te parle. Et ce je suis, c'est la même racine que le je suis du buisson ardent de Moïse. Quand Moïse demande, il dit, Dieu, là, je vais aller vers ce peuple que tu veux sauver, mais il faut que je dise ton nom. Je suis celui qui suis. C'est le même je suis lorsque Jésus discute avec les pharisiens et qui sont autour d'Abraham. Il leur dit, mais Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait ce jour. Les pharisiens lui disent, mon pauvre, tu n'as pas 50 ans et tu prétends avoir connu Abraham avant qu'Abraham fût je suis. C'est ce je suis qu'il dit à cette femme. Je suis. Jésus ne se contente pas de se présenter comme le Messie. Il dit qu'en lui, c'est le Dieu sauveur et libérateur qui se révèle. C'est une femme qui est venue au puits. C'en est une toute autre qui est retournée dans son village. Elle a rencontré Jésus. Elle en oublie même sa cruche, ce que pourquoi elle était venue. Elle va à la recherche des autres. Elle va vers ceux qu'elle évitait. Un caractère nouveau lui fait dominer la situation. Elle les invite à venir à Jésus, verset 29. Elle qui autrefois cachait sa vie dit maintenant, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Mais lui, il me l'a bien dit, en sous-entendu, avec amour, sans esprit légaliste, sans jugement. Jésus, comme il veut faire avec nous, et qu'il a peut-être déjà commencé le processus, veut défaire toutes nos certitudes. Et dans la vie de cette femme, il a défait toutes ses certitudes. Et la déconstruction de l'univers de cette femme est parallèle dans son cœur à une découverte progressive de la personnalité de son interlocuteur. Plus elle abandonne des choses, plus elle écoute, et plus le ton de cette femme change avec Jésus. Juif, Seigneur, plus grand que notre père Jacob, prophète, Messie qu'elle entrevoit. Il a placé cette femme devant sa vie tout en se révélant à elle sans la juger, sans la critiquer. C'est ce qu'il a fait avec nous. À aucun moment cette femme s'est sentie rabaissée, dominée. Jésus, c'est l'amour qui fait grandir. On peut s'inspirer parfois, nous également, lorsque nous parlons à des personnes, de nous appuyer sur cette méthode. Annoncer une personne, Jésus, réconciliée avec Dieu, avec elle-même, avec son passé, elle est devenue un témoin de Jésus. La grâce qui a été faite à cette Samaritaine l'a également été pour nous. Le salut a un nom. La grâce a un nom. C'est Jésus que nous annonçons. Combien de fois nous glissons vers des discussions où on veut nous attirer, qui ne sauvent pas, qui nous épuisent, qui finalement, en fin de compte, nous énerve. Qu'il y ait un créateur ou qu'on soit issu de l'évolution, nous savons que nous avons un créateur, mais le but n'est pas là, c'est pas ce qui sauve. Celui qui sauve et que nous devons annoncer, c'est Jésus. Et tout au long de ce dialogue, Jésus n'aura de cesse de ramener le dialogue vers lui, petit à petit, vers lui. Pas sur les lieux à adorer, pas sur quoi que... Sur lui, Jésus. Toujours Jésus. Il y a une porte à franchir. Alors, pour nous, peut-être qu'ils l'avons franchi ce matin, cette porte est pleinement suffisante pour nous apporter le salut, la paix, la joie, l'espérance. Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé. Il y a une porte. Et si par grâce, ce matin, nous l'avons franchi, eh bien, nous pouvons être en toute sécurité. Cette porte est amplement suffisante pour aujourd'hui, pour demain et jusqu'au jour où nous serons dans l'éternité avec lui. Si quelqu'un parmi nous est ce matin devant cette porte, qu'il ne l'a pas encore franchie, ou qu'il est peut-être hésitant, qu'il se pose des questions, il y a une porte à franchir. On peut être devant cette porte, la contempler et rester sous la condamnation. Il y a une porte à franchir. Lorsque Jésus dit « Je suis la porte », celui qui entre par moi sera sauvé. Jésus se tient encore ce matin à la porte et c'est une grâce de Dieu, elle est encore ouverte. Pour conclure, tout cela s'est passé à midi autour d'un puits. On pourra dire que Jésus a creusé son puits dans le cœur de cette femme pour y mettre son eau. Mais plus loin dans ce même évangile, également vers midi, Jésus sera crucifié, aura soif, en se privant de la présence de son Père. Tout cela afin que nous n'ayons plus jamais soif. Que le Seigneur bénisse sa parole.